Dans votre ouvrage, votre dernier ouvrage qui s'appelle Après la démocratie, vous prônez un protectionnisme européen et un certain nombre de journalistes, notamment, vous vilipendiez d'une certaine façon d'avancer cette thèse. Est-ce que vous pourriez nous donner les raisons qui font que vous pensez que c'est une solution?
Ouais. Bon, moi, je me sens pas très attaqué en ce moment. J'ai plutôt l'impression d'une ouverture de plus en plus grande au concept de protectionnisme à cause de la crise économique, qui a tout à fait un rapport avec le libre-échange, et c'est très difficile de le nier. Le libre-échange a ramené le capitalisme à sa vieille contradiction du 19e siècle, c'est-à-dire que les gens ont cessé de percevoir une complémentarité entre production et consommation, entre augmentation des salaires et absorption des gains de productivité. C'est-à-dire que le libre-échange, ça veut dire que les entreprises produisent pour des consommateurs qu'elles perçoivent comme extérieurs, et donc elles ne perçoivent plus les salaires qu'elles donnent à leurs employés comme de la demande pour l'économie. Donc on est dans une logique de compression du coût salarial, aggravée par la concurrence des salaires des pays émergents. Et tout ça aboutit à une insuffisance, je dirais, tendancielle de la demande globale à l'échelle mondiale, qui jusqu'à présent était à peu près compensée, pas suffisamment pour l'Europe, mais à l'échelle mondiale à peu près compensée par le comportement fou des ménages américains. La mécanique subprime, c'était un système qui, au final, sans entrer dans les détails, permettait à l'Amérique de dégager, je dirais, un déficit commercial de 800 milliards de dollars par an sur les biens, qui était comme une sorte de surcroît de consommation pour la planète. C'était une sorte d'état et de régulateur keynésien informel. Bon, ce mécanisme s'effondre, l'Amérique cesse de vivre au crochet du monde, temporairement ou plus difficilement, et donc le système s'arrête. Donc je trouve que dans le contexte actuel, au contraire, je veux dire, on a vraiment l'impression que les conformistes qui domine absolument, ça il faut l'admettre, sur le marché intellectuel de l'économie, bon, tout ça est un peu en train de bouger. Alors cela dit, c'est évident que les choses ne sont pas faites. La dernière réunion du G20 a été en un certain sens pathétique, puisqu'on a vu tous ces pays se réunir. Ça c'est bien de discuter ensemble. L'idée de coopérer entre nations à l'échelle planétaire est évidemment une très bonne idée, mais si c'est pour aboutir à l'idée que on ne parle pas du rôle moteur des États-Unis dans le déclenchement de la crise et de leur position particulière. Et si on accouche de l'idée que le principal problème, c'est la menace protectionniste et qu'il faut encore améliorer le libre-échange, c'est-à-dire que si le résultat du G20, c'est de se proposer d'aggraver le système qui déjà produit ses effets négatifs, c'est vrai qu'on est dans une situation bizarre. Mais pour moi, l'hypothèse protectionniste est amenée. On sent que ça se développe, on sent qu'il y a des gens qui émergent, comme Gréaux, Sapir, et il y en a certainement d'autres dans d'autres pays du monde. Donc on sent, moi je sens un système idéologique qui est en rupture. Mais je veux dire, c'est une situation très bizarre parce que les autres avaient gagné. C'est-à-dire que je crois que dans les 10 dernières années, les libre-échangistes avaient remporté une victoire idéologique phénoménale et se sont heurtés là au mur de la réalité, je veux dire, à l'horreur qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. Et on est dans une situation idéologique et intellectuelle tout à fait particulière.
Beaucoup vous diraient cependant quand même que le protectionnisme est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, notamment parce que ça suppose le nationalisme. Quelque chose dans ce goût-là.
Alors oui, c'est des trucs qu'on dit souvent. Je crois que Pascal, je sais plus si c'était Pascal Lamy ou un autre. L'une des routines, c'est d'associer protectionnisme et xénophobie, même plus loin. Alors pour moi, c'est assez rigolo parce que mon livre précédent, qui était sur la démographie du monde musulman, était typiquement un livre universaliste, essayant de démontrer que les pays arabes évoluaient normalement. Donc dans mon cas particulier, j'ai essayé d'associer protectionnisme et xénophobie. Ça va être très difficile. Moi, je pense que la séquence est beaucoup plus perverse, parce que le libre-échange, en vérité, s'appuie sur l'idée d'une concurrence internationale effrénée. Et la vérité, c'est que le libre-échange lance les peuples les uns contre les autres. C'est-à-dire, c'est le libre-échange qui crée à la fois une sorte d'asthénie de la demande mondiale, la recherche de débouchés extérieurs, et qui finalement, au final, produit des réactions d'hostilité. Donc on le voit, ce qui monte, c'est l'hostilité à la Chine qui est perçue. Au moment du vote sur le traité constitutionnel européen, on avait vu que monter l'hostilité aux pays de l'Est, c'est-à-dire parce que ces concurrences salariales par le bas, en fait, lancent les peuples les uns contre les autres. Donc la vérité, c'est que au stade actuel, ça n'est pas le cas dans toutes les circonstances, mais au stade actuel, le libre-échange nourrit la xénophobie. Le protectionnisme doit s'appuyer sur une idée territoriale, mais de toute façon, le protectionnisme que je propose, modestement, puisque je suis loin d'être un dominant mondial, est un protectionnisme qui dépasse l'idée nationale. C'est-à-dire, je dis très clairement que, à l'échelle de la France, ça n'a aucune chance de marcher. C'est-à-dire que la globalisation a fabriqué ce que les économistes américains appellent des économies régionales. Nous, on dirait plutôt, je pense, des économies continentales. C'est-à-dire, il y a des zones, bon, il y a des phénomènes de pression salariale qui s'exercent à l'échelle de toute la planète, mais les espaces de complémentarité et d'échange de marchandises sont plutôt continentaux. Donc l'Europe s'est fabriquée, l'Europe est intégrée. Je veux dire, l'idée de séparer les nations de la communauté européenne sur le plan économique, je veux dire, c'est un non-sens. De même, les États-Unis ne sont plus, à mon avis, dissociables économiquement du Canada et du Mexique. Le niveau d'interprétation est tel que ça n'aurait plus de sens. Il y a des phénomènes de complémentarité très fortes qui sont en train de s'établir entre économies asiatiques. Alors, je pense que ça va être moins simple entre la Chine et le Japon qui ont des rapports historiques complexes, mais le fait est qu'il y a une économie extrême orientale qui est en train d'apparaître. Donc ce que je dis avec d'autres, c'est que l'important, c'est pas de se couper des autres, c'est de créer des conditions dans lesquelles on peut assurer une remontée des salaires et de la demande. Et je dis, il faut découpler ces grandes économies continentales, et dans le cas de l'Europe, alors, où est la xénophobie dans un projet qui associerait dans un espace protégé, conformément à l'idée initiale du traité de Rome, d'ailleurs, il ne s'agit que de faire revivre la préférence communautaire, je veux dire, 27 nations européennes, je veux dire, comme xénophobie, on peut faire mieux, il me semble. Donc il s'agirait, dans le cas de l'Europe, de construire un espace protégé, dans lequel, alors par rapport à des systèmes de quotas d'ailleurs plutôt que de barrières tarifaires, puisque les barrières tarifaires c'est dans un système de change flottant, c'est un peu compliqué, et puis de créer les conditions d'une relance de l'économie par la relance salariale. Et il est bien évident que si vous pensez à l'ensemble du cycle, ce que vous devez penser c'est on protège aux frontières, on fait cesser la pression des salaires des pays émergents, on fait remonter les salaires, on fait remonter la demande, on crée pour les États la possibilité de participer aussi à la relance de la demande par l'investissement de l'État, et on relance les économies, et ces économies qui s'enrichissent sont amenées, en bout de cycle, à se remettre d'une autre manière à importer. C'est-à-dire qu'en fait, le protectionnisme de relance peut aboutir au développement des échanges internationaux. Alors qu'au contraire, si vous prenez le libre-échange en bout de cycle, et on est en bout de cycle, le libre-échange, dans un premier temps, bien entendu, vous avez une augmentation des échanges internationaux, mais une fois que la demande intérieure des pays les plus avancés est complètement implosée, je veux dire, vous avez un effet boomerang sur les économies exportatrices de l'ancien tiers-monde. Je veux dire, le pays qui risque le plus actuellement dans la dépression mondiale, c'est la Chine. La Chine est devenue une économie folle qui exporte 40% de son produit intérieur brut, qui est une sorte de plateforme de production pour des entreprises multinationales. Je veux dire, si le système continue de ralentir à la vitesse où il ralentit, je parle du système mondial, la Chine risque littéralement d'imploser. Donc si vous voulez, les gros arguments soi-disant universalistes du type « oui, mais les protectionnistes européens sont des gens qui refusent le décollage des pays émergents », devient complètement idiot, parce que actuellement les pays les plus menacés, c'est les pays émergents. Donc vraiment, je crois que... Alors, ce qui est vrai, c'est que ce qui est finalement techniquement facilement concevable pour les Européens, puisque l'économie européenne reste que extrêmement puissante industriellement, elle équilibre à peu près, bon, il y a un léger déficit en ce moment, mais c'est pas les États-Unis, ces échanges commerciaux, c'est-à-dire que les Européens ont la maîtrise de toutes les technologies essentielles, et puis en plus, bon, ils ont juste besoin de quelques matières premières qui peuvent payer par des exportations, donc pour eux c'est facile, c'est compliqué sur le plan politique quand on est à 27 et quand on n'a pas essayé sérieusement de convertir l'Allemagne, mais c'est techniquement faisable. Pour les États-Unis et pour la Chine, c'est plus difficile, parce que là, il y a des éléments d'asymétrie fondamentale. C'est-à-dire que pour les Chinois, il faut leur donner le temps et les aider à se réorienter vers le développement de leur demande intérieure. Donc, bien entendu, il ne faut pas faire les choses brutalement. Il faut que ça soit fait dans un esprit de coopération. Mais si le libre-échange commence à les asphyxier eux-mêmes, on va s'arranger. Quant aux États-Unis, qui sont en surconsommation, il est bien évident qu'un passage brutal au protectionnisme, ils en parlent plus là-bas, mais c'est plus difficile pour eux. Je veux dire, c'est une chute de niveau de vie de 20%. Donc il faut les aider. C'est pour ça que je vais essayer de lancer dans l'expansion l'idée d'un plan Marshall pour les États-Unis. Ils l'ont bien mérité, après tout le bien qu'ils nous ont fait. Donc vous voyez, c'est facile. Enfin, dans mon esprit, les choses sont très claires. Mais ce qui est réellement tragique, c'est que la crise est arrivée sur nous avant que les choses aient été pensées dans le détail. C'est un sujet, le libre-échange, il a fallu 2 générations pour le mettre en place. Le passage au protectionnisme coopératif, c'est l'affaire d'une génération. Et là, on arrive, il y a la crise, personne n'a pensé à rien. Et alors donc, on a tous nos... Je pense que quand je vois tous ces dirigeants qui se baladent sur la planète à faire des conférences de presse ensemble, je pense particulièrement à Nicolas Sarkozy, il me revient une expression que je ne sais plus qui avait été utilisée, je ne sais plus si c'était pour Giscard aussi, de truc méprisant de Mitterrand, le petit télégraphiste. Et donc là, on a l'impression d'un petit télégraphiste qui n'a aucun message, en fait. Vous voyez, donc, mais ça, c'est pas la faute des dirigeants politiques. C'est que les élites du monde développé, qui restent dominants idéologiquement, faut pas se faire d'illusions, n'ont rien pensé à l'avance, n'ont rien préparé. On est dans un état de surprise complet. Une partie du drame est là, je crois.
Et qu'est-ce qui les a empêchés, ces élites, de penser justement que des mesures protectionnistes pouvaient être bonnes? Pourquoi il y a eu cette espèce de blanc mental?
Ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est j'évoque des choses évidentes comme il y a la notion d'intérêt de classe. Dans une première phase, le libre-échange a vraiment profité aux 20% supérieurs de la population, les gens qui faisaient des études supérieures. Alors, dans ces dernières années, dans un pays comme la France, ça s'est rétréci aux 1% supérieurs, avec 10% qui, je vais parler vulgairement, qui ne morflent pas trop du libre-échange. Mais, donc, je veux dire, les dominants en souffraient moins ou en profitaient. C'est déjà, je dirais, un élément d'explication, même si c'est un peu court, puisque ça produit des sociétés très désagréables, y compris pour les dominants. Donc je mets pas mal en cause les économistes. On peut vraiment parler d'une faillite intellectuelle et morale d'une profession dans son ensemble. Mais pourquoi cette faillite intellectuelle et morale? Pourquoi cette difficulté à penser le phénomène de la demande globale à l'échelle mondiale dans la génération dominante dans le monde développé, c'est la mienne, hein. J'ai 57 ans, donc c'est des gens qui sont entre 50 et 60. Donc qui, dans leur formation initiale, s'ils ont fait Sciences Po ou de l'économie, en fait, ont appris l'économie keynésienne. En fait, donc il y a un mystère. Je veux dire, comment ils ont réussi à oublier ce qu'ils avaient appris? Peut-être moi, je m'en souviens parce que je suis lent mentalement et que j'avais des traces mnésiques qui m'ont permis d'affronter la situation. Et peut-être, je sais pas. Mais donc, il y a quand même un mystère. Et dans le livre, finalement, je m'intéresse à des phénomènes de mentalité, de psychologie collective qui dépassent largement l'économie. C'est-à-dire l'incapacité à penser le collectif, c'est pour moi fondamentalement lié à une sorte de phase assez bizarre de l'évolution mentale de l'humanité. Donc il y a l'accession, de millions de personnes à une éducation supérieure. Il y a l'élévation du niveau de vie qui n'a pas produit un état de conscience supérieur, mais qui, au moins dans une première phase, on est en plein dedans, a produit ce que j'appelle pas du tout de l'individualisme, et ce qu'il faudrait appeler, on parle d'ultralibéralisme, mais on pourrait parler d'ultra-individualisme. Le plus simple, c'est encore de parler de narcissisme et de toutes sortes de comportements, je dirais, des individus suréduqués, d'intérêt pour soi-même et de désintérêt pour tout ce qui est collectif. Toutes les croyances collectives se sont effondrées, ceux qui restaient de religion, ceux qui restaient d'idéologie politique. On est confronté à un phénomène de mentalité extrêmement vaste qui, quand on atteint la sphère de la réflexion économique, produit des attitudes qui se présentent scientifiques, comme scientifiques, mais qui en fait sont des espèces d'envies primitives et primales. C'est-à-dire, il est interdit d'interdire, donc l'État ne peut pas intervenir, l'individu est roi, et au-delà de roi, donc il n'y a que le marché, donc on ne peut pas s'organiser, penser collectif est une horreur, le mot protectionnisme est affreux, vous voyez. Mais en fait, c'est un problème de psychologie collective, c'est pas du tout un problème intellectuel.
Et pourquoi la gauche en particulier n'a pas pensé cela ?
Alors, ce que je souligne dans mon livre, moi je suis plutôt un mec de centre-gauche, hein, donc c'est très triste pour moi de dire ça, et j'ai vraiment beaucoup plus souvent voté à gauche dans ma vie qu'à droite, mais les gens de droite, bizarrement, alors je ne pense pas, je dirais, à la bourgeoisie financière ou aux gens des grandes multinationales qui échappent qui échappent à la nation ou à toute notion de territoire, et qui sont vraiment dans les profiteurs du système, et vous savez, les gens qui déplacent des ouvriers ou qui déplacent plutôt des facteurs de production, qui jouent sur les unités de production comme sur les touches d'un piano, qui délocalisent, qui spéculent, enfin, c'est un petit monde, en fait. À droite, c'est un petit monde, c'est très peu de gens, on est dans les 1%, mais les petits chefs d'entreprise, les petits patrons, qu'ils exportent un peu ou pas, pour eux, la magie du libre-échange, le libre-échange, c'est une lutte pour la survie. Ils réussissent ou ils ratent, mais c'est très dur. Et quelque part, ils sont capables de sentir que c'est pas idéal. C'est pour ça que quand il y a des bruits protectionnistes, ils viennent plutôt de la droite encore. C'est des bruits, hein, car plus que des bruits. Sarkozy a fait, avec la plume de Guénot, avait fait quelques bruits avant son élection parce qu'il avait vraiment très peur de pas être élu, et que les gens aiment bien ça. En fait, quand on regarde un sondage sur la population, les gens sont en faveur du protectionnisme d'une façon incroyable. Mais les socialistes, ils ont... bon, alors d'abord, ils ont ce petit blocage que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire cette idée que la gauche n'a pas... Bon, la gauche doit s'intéresser au peuple, mais elle doit s'intéresser à la population, je veux dire, à l'humanité dans son ensemble, et que ce serait vraiment dégoûtant de ne pas tenir compte de l'émancipation économique des peuples chinois, indiens et autres. Ça c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire en disant ça, d'ailleurs ils semblent croire que ces pays se développent uniquement à cause des échanges, alors que c'est des pays qui s'alphabétisent, qui auraient décollé dans n'importe quel type de régime économique à peu près raisonnable. Et puis il y a ce truc quand même terrible, c'est que le cœur du Parti Socialiste, je vais le dire très crûment, c'est des fonctionnaires de catégorie A, je veux dire, qui ont la stabilité de l'emploi et qui donc sont en dernière ligne pour l'extermination économique, si on peut dire, puisque les fonctionnaires ne vont pas être délocalisés, par définition. Alors, cela dit, il faut dire aussi que les salaires, comme je le signe dans mon livre, les salaires des fonctionnaires de catégorie A sont en baisse depuis quelques années, c'est-à-dire la pression finit par s'exercer. Ce n'est pas une insulte personnelle, je suis moi-même un fonctionnaire de catégorie A, donc c'est tout à... ça n'est pas personnel. Voilà. Donc il y a une sorte d'insensibilité... du Parti Socialiste, où il y avait jusqu'à très récemment une insensibilité du Parti Socialiste à ces questions de libre-échange, paradoxalement, parce que le Parti Socialiste était un parti de fonctionnaires. Ça avait été remarqué par le théoricien allemand du protectionnisme, Friedrich List. Je veux dire, les fonctionnaires sont des gens qui peuvent avoir une idéologie économique sans aucune, comment dire, sans avoir aucun rapport réel avec le marché, avec ses contraintes. Oui, donc c'est, mais cela dit, quand même, ça bouge, hein, je veux dire, la motion Hamon, quand même, on n'attendait pas, ça arrive, elle arrive juste avant la crise mondiale, quand même, je veux dire, on a des bonnes surprises.
Tout à l'heure, vous disiez que ça serait difficile de mettre en place un protectionnisme européen, et justement, le faire, mais avec qui, comment ?
Ah ben, alors, si vous voulez, là, moi je milite pour des projets concrets qui peuvent améliorer grandement la vie des populations, mais sans rentrer dans un conte de fées et en tenant compte des rapports de force réels. C'est-à-dire, quand on dit l'Europe à 27, oui, c'est très sympa, mais c'est pas vrai que ça va dépendre des Lettons. Hein ? La plupart des gens, d'ailleurs, ne savent pas où est la Lettonie. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'est l'histoire de la Lettonie, et c'est pas eux qui vont décider. Il y a une réalité à accepter en Europe, c'est qu'il y a quelques puissances dominantes, quand même. Il y a l'Angleterre, et des dominantes sur le plan des conceptions idéologiques, puisque c'est le monde anglo-saxon, etc. Alors je dois dire que la crise, moi je suis un anglophile congénital, j'ai fait une partie de mes études supérieures en Angleterre, donc mon cœur saigne quand je vois les difficultés économiques de l'Angleterre et les risques qu'ils ont pris en acceptant une financiarisation exagérée de leur économie. Mais la réalité, c'est que l'Angleterre actuellement n'est pas en situation de débattre du sujet. Il y a même des Anglais qui commencent à dire qu'il serait temps de joindre la zone euro pour éviter une catastrophe de type islandais. Ça paraît exagéré comme risque, mais bon. Mais donc il y a deux puissances en Europe. Il y a la puissance de contestation qui est la France, pas sous la forme sarkozyste du rapport infantile à l'autorité des États-Unis. Où on va gueuler contre le papa américain, même quand il a fait des bêtises, mais on va gueuler à Washington sur son terrain. Donc je pense à la France de la contestation, des Français qui ont parfaitement compris que le libre-échange était une ânerie, qui votent non au référendum, qui s'en laissent pas compter. Mais cette France, j'aurais tendance à dire que la spécialisation de la France dans le domaine international... C'est le grand truc des libre-échangistes. Chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus doué. Bon, la France fait des TGV, des morceaux d'Airbus, des centrales nucléaires. Mais la grosse exportation de la France, c'est quand même la contestation. Il faut reconnaître notre talent depuis 1789. Donc c'est ça. La France est une force de contestation. Et puis c'est une puissance. Elle a son siège au Conseil de membres permanents au Conseil de sécurité. Elle possède l'arme nucléaire quand même. Et voilà. Mais il y a une puissance industrielle et économique dominante en Europe qui est l'Allemagne. Donc en fait, l'Italie, l'Espagne sont importantes. Et d'ailleurs, ça serait bien si les Français arrivaient à prendre plus au sérieux, à discuter plus sérieusement avec les sœurs latines, comme on dit. Hein. Mais l'important, c'est le dialogue avec l'Allemagne, et l'important est un dialogue musclé. C'est-à-dire que il faut contraindre les Allemands à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire leur attitude en Europe n'est pas responsable actuellement. Ils font une politique économique de type japonais, en fait. C'est-à-dire ils ont un excédent commercial tout à fait extraordinaire. Ils veulent à la fois bénéficier de la protection de leurs exportations dans la zone euro, puisque la France, l'Allemagne et l'Italie ne peuvent pas faire des dévaluations compétitives pour se protéger, je dirais, de l'efficacité de l'Allemagne à comprimer ses propres salaires. Donc voilà. Et puis ils font une politique d'exportation à l'échelle mondiale qui est très importante. En fait, c'est une économie beaucoup plus mondialisée, l'économie allemande. Donc il faut avoir le courage d'affronter les dirigeants allemands et de leur poser un marché. Donc leur dire, écoutez, de toute façon, vous êtes dans une situation maintenant épouvantable. Justement, ils sont beaucoup plus touchés. Je veux dire, actuellement, en période de crise, bien entendu, les économies les plus exportatrices, les plus dynamiques, sont les plus touchées. Ça recommence exactement comme en 29. Je veux dire, le 0,1% de croissance de la France prévue dans l'année qui vient, c'est pas une performance extraordinaire. Ça veut dire qu'on allait déjà très mal avant et qu'on exportait déjà pas assez dans le système ancien. Donc l'Allemagne est menacée et il s'agit de faire comprendre aux Allemands qu'ils ont plus à gagner dans une économie européenne continentale protégée, comprenant les pays de l'Est qui sont essentiels aux exportations et à l'économie allemande, et qu'il faut qu'ils prennent ça en charge. Et puis leur dire, bah, écoutez, soit vous comprenez votre intérêt qui est d'assumer vos responsabilités dans la réorganisation de l'économie européenne, soit on décroche de l'euro, on fout l'euro en l'air parce que ça nous arrange pas nous. Et tant qu'à faire, s'il s'agit simplement de survivre dans des conditions difficiles, chacun joue son jeu. Et l'intérêt de la France, c'est de revenir à la protection par le change, la dévaluation, comme on faisait d'ailleurs quand le pays était prospère. Parce qu'il ne faut pas non plus une monnaie dévaluée, c'est pas la mort. Hein. Mais pour ça, il faut oser négocier avec les Allemands. Et ce qui m'inquiète dans la période récente, c'est que le gouvernement actuel, la présidence actuelle. Sarkozy fait des effets de manche à l'échelle planétaire, il court partout en disant qu'il organisait des moments historiques, mais la seule relation importante pour la France, c'est la relation avec l'Allemagne, il l'a pourrie. Je veux dire, parce que les Allemands ne le supportent pas, parce qu'il est agressif, vaniteux, prétentieux. Dans le contexte actuel, c'est insupportable. Parce que la vérité, c'est que la France ne peut pas être entendue seule à l'échelle mondiale. On l'a vu pendant la guerre d'Irak. La France est une puissance moyenne, estimable, qui peut produire du verbe, mais pas plus en temps normal. Hein. Pour produire de l'action, il faut que l'Allemagne soit d'accord. Donc je veux dire, Chirac et Villepin ont pu menacer les États-Unis d'un veto au Conseil de sécurité parce que les Allemands avaient dit « si vous le faites, on vous appuie ». Et là, on est au cœur des problèmes économiques, c'est encore plus essentiel. Donc on saura qu'il se passe quelque chose le jour où les Français et les Allemands discuteront d'une réorganisation économique de l'Europe. Mais là, on n'en est pas là. La France et l'Allemagne ensemble sont une puissance mondiale. Séparément, ces deux puissances moyennes, intéressantes et estimables, mais qui ne sont pas à l'échelle des États-Unis, de la Chine, ou même de l'Inde, virtuellement. Il faut... je suis un bon Français, mais on est 60 millions. Je veux dire, nous avons derrière nous une histoire prestigieuse, mais il faut voir le monde en marche, quand même, et la désoccidentalisation du monde.